Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
À l'homme, ni la chair, ni l'exaltation de soi, mais le Dieu qui aime, le Dieu qui délivre, le Dieu qui sauve, sois glorifié, Seigneur. Ô mon Dieu, quant à nous, nous ne pouvons que nous humilier devant toi. Tant de fois nous avons usurpé ce qui t'appartenait, la gloire t'appartient. Nous avons usurpé ce qui est à toi. Nous avons déformé les choses saintes. Nous avons voulu ramener à notre niveau les choses éternelles, les choses qu'on ne peut mesurer. Nous avons fabriqué des faux dieux à notre mesure. Et nous avons péché. Père, à cause de cela, ta gloire s'est retirée. Car tu n'aimes pas, tu ne veux pas, tu détestes les mélanges. Seigneur, mon Dieu, tu es un Dieu jaloux et tu ne veux rien partager avec Satan. Tu veux tout de nous ou rien, mais tu ne veux pas le mélange. Le mélange des choses saintes et des choses profanes. Le mélange des choses de Dieu et des choses de la terre, de la conception humaine et la recherche des choses de vanité au détriment des choses éternelles. Ô Dieu, s'il te plaît, touche-nous. S'il te plaît, parle-nous encore. S'il te plaît, ô Dieu, souviens-toi de ces créatures que toi-même, Seigneur, tu as créé, de ces êtres que tu as créés, de ces êtres imparfaits, il est vrai. Mais Seigneur, parmi eux, beaucoup cherchent, sont trouvés parce qu'ils cherchent mal. Aide-nous, Seigneur, à être une lumière, afin que ceux qui cherchent et qui sont dans les ténèbres trouvent la lumière. Et la lumière, ce n'est pas un homme, mais c'est toi, Seigneur. Oh, brille, Seigneur, nous t'en prions. Père, sois glorifié, toi, toi, pas un homme, mais toi et toi seul. Nous lirons dans Exode au chapitre 20. Nous continuons notre méditation sur les 10 commandements, sur ces paroles si importantes que Dieu a laissées au peuple d'Israël et à tous les peuples à travers les âges. Car tous ces principes sont ancrés dans le cœur de chaque individu, dans la morale, même s'ils ne n'y obéissent pas, il y a quelque chose en eux qui leur dit que ces choses sont vraies et quand ils les violent, ils font mal. Là, nous avons l'empreinte de la loi de Dieu dans le cœur de l'homme et dans la conscience. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'est ce que nous avons vu dimanche dernier. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Ensuite, « Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque, de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte. » Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aime et qui garde mes commandements. Je ne crois pas que nous arriverons à épuiser tous ces versets ce matin, mais du moins une partie, car nous voulons creuser, savoir et comprendre, comprendre la pensée de Dieu. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Lorsque Dieu forma l'homme de la poussière, il dit dans Genèse 2, 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Voilà ce que Dieu a dit, et voilà ce que Dieu a fait. « Faisons l'homme à notre image, et à notre ressemblance. » Et c'est ainsi qu'il fut fait, que l'homme fut fait à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Dieu a mis en l'homme son empreinte. Dieu a mis en l'homme, dans cet être qu'il avait formé et modelé de la poussière de la terre, il y a mis son empreinte, il y a mis sa marque. Ceci ne veut pas dire nécessairement que Dieu a un nez comme nous, des yeux comme nous, des oreilles comme nous, des bras comme nous. S'il le veut, il peut l'avoir. Mais cette empreinte qu'il a mis en nous est plus que physique, plus que physique. Mais le physique subit l'empreinte spirituelle de Dieu dans nos âmes. Autrement dit, l'homme est une trinité parfaite, esprit, âme et corps, qui forment un ensemble. Quand l'esprit et l'âme et le corps sont ensemble, l'homme est viable, et il vit, et il marche, et il se déplace, parce qu'il est esprit, âme et corps, et c'est une unité parfaite. Dès l'instant où le corps ne fonctionne plus pour des certaines raisons, maladies, accidents, guerre, que sais-je, le corps ne fonctionne plus, il n'est plus habitable par l'âme et l'esprit. Mais l'homme ne cesse d'exister. L'homme ne cesse d'exister. La mort physique n'est pas une fin en soi. C'est une fin physique, mais ce n'est pas la fin de l'homme. Sachons-le bien. Dieu a mis son empreinte dans l'homme. Il a mis sa marque dans l'homme. L'homme est une unité parfaite quand il est ici-bas sur la terre, esprit, âme et corps. Et cette empreinte de Dieu dans l'homme, elle est visible. Elle est tangible. Elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord morale. Et Satan était furieux car il est révolté contre Dieu. Il a mis son empreinte dans l'homme. L'homme est la seule créature du monde physique qui porte la marque et l'empreinte de Dieu. La ressemblance à Dieu. Il y a une ressemblance à Dieu. Même dans cet homme mauvais, méchant, qui peut-être ressemble plus à Satan qu'à Dieu, c'est vrai. Mais quand même, il y a une empreinte de Dieu sur lui. Et Dieu ne l'a pas rejeté malgré sa méchanceté. Dieu a pourvu un moyen pour qu'il soit sauvé, car il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a pas de péché qu'il ne puisse enlever. Car virtuellement, et nous l'avons déjà dit, tous les hommes sont déjà sauvés. Ils sont sauvés car il est mort pour tous les hommes. Ce qui nous reste, c'est à reconnaître et à ratifier cet accord de salut. En lui, par lui. Il y a une part de notre côté, et il y a la part de Dieu. Dieu a eu beaucoup plus à faire que nous, quiconque croit à la vie éternelle. Alléluia. Pourquoi? Parce que le salut est déjà acquis. L'homme est la seule créature du monde physique qui porte la marque, l'empreinte, la ressemblance de Dieu. Il est un être spécial. Il est un être unique dans toute la création. Mais l'homme a désobéi, il s'est rebellé, il a voulu faire sa volonté, il a violé le commandement de son Créateur. Le péché s'est installé dans le monde et l'homme l'a suivi Et ce péché a pris racine en lui. L'homme, dans son égarement à cause du péché, vous savez que quand Adam a péché, il s'est séparé de Dieu, de lui-même. Dieu l'a cherché, mais Dieu n'a plus eu communion avec lui à cause de la barrière qui s'était établie entre lui et Dieu, qui s'appelle le péché, cette barrière, cette séparation. À cause de cela, l'homme n'a plus eu communion avec Dieu, communion directe. Il voyait Dieu, Dieu le voyait. Ils parlaient l'un et l'autre. Ils avaient conversation. Mais la barrière était infranchissable. Il y a eu séparation. Mais l'homme est devenu spirituellement mort. Spirituellement mort. Et l'homme a regretté. Il voulait avoir communion avec Dieu. Il ne voyait plus Dieu. Il ne touchait plus Dieu. Il n'avait plus communion avec lui. Alors, l'homme, dans son égarement à cause du péché, a voulu abaisser Dieu à son niveau. Selon une image produite par son imagination et sa fantaisie. Voilà. Une image qui représente, selon son imagination, ce qu'il voudrait pouvoir voir, ce qu'il voudrait pouvoir toucher, ce qu'il voudrait pouvoir manipuler. Quand il le voyait dans le jardin d'Éden et qu'il n'y avait pas le péché pour le séparer de son Dieu, la question ne se posait pas. C'est mon Dieu. Je suis son enfant. Maintenant, il est séparé. Où est ce Dieu? L'homme est avant tout un être spirituel. Il y a l'empreinte de Dieu en lui. Il a besoin de Dieu. Il cherche Dieu. Il a soif de Dieu. Dans toutes les civilisations, quelles qu'elles soient, nous le voyons par l'histoire et par toutes les découvertes archéologiques et autres, que tous ces peuples avaient une recherche de Dieu. Mais ce Dieu-là, ils l'ont fait descendre au niveau de leur imagination et de leur fantaisie. L'homme loin de Dieu est mort, spirituellement mort. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, il est parlé de nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que cet homme qui vit physiquement est mort spirituellement. Il doit naître de nouveau pour être ravivé dans son esprit et avoir une juste dimension de Dieu. Spirituellement mort. C'est pourquoi il faut quelque chose de tangible, de matériel. Il a besoin de quelque chose sur lequel il puisse s'appuyer, de quelque chose qui représente ce qu'il a perdu, Dieu, car il a perdu Dieu. Et il cherche à regagner Dieu par son imagination, par ses idées, par sa philosophie personnelle. Il cherche quelque chose de tangible, de matériel. L'homme naturel veut voir et veut toucher. Mais Dieu dit non. Dans Jean 4, 24, il est dit, Dieu est esprit. Ah! Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Allez représenter en esprit. Et encore l'esprit de Dieu. Dites-moi un peu. Et nous avons cette marque de Dieu, ce spirituel de Dieu en nous. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et non pas adorent en une représentation sculptée selon l'art, en une image, une peinture faite par un artiste. Non. En esprit. Que ton esprit soit vivifié, que tu passes par la nouvelle naissance, qu'une nouvelle vie se manifeste en toi, et qu'ainsi, par l'esprit qui est en toi, renouvelé et qui est vivant, s'unisses à l'esprit de Dieu. Et en vérité, pas en mensonge. Car la chute de l'homme Par la chute, l'homme a perdu son sens spirituel. Il est devenu matérialiste. Matérialiste. Il a besoin de se former en Dieu. Il a besoin de se former une statue. Il a besoin de se former une représentation. Une représentation d'une chose qu'il croit vaguement, mais qu'il ne voit pas et qu'il a besoin de fabriquer, de former, qu'il a besoin de se représenter par une matière modelée par ses mains. Quelle aberration! Dans Exode 32, quand Moïse était sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, Israël, se voyant seul, dans un désert, ayant fui l'Égypte, Israël se fit un Dieu selon sa propre imagination. Un Dieu qu'il puisse voir, un Dieu qu'il puisse toucher. Mais pourquoi Moïse était-il si fâché lorsqu'il vit ce qu'ils avaient fait? Lorsque Moïse descendit de la montagne avec les tables de la loi, la première version des tables de la loi écrite du doigt de Dieu sur des pierres, lorsqu'il descendit, Moïse, furieux, Dieu lui avait dit, avant même que Moïse descende, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, Dieu ne dit plus mon peuple, il dit à Moïse ton peuple. Regarde ce qu'il fait. Ils sont vite détournés de ma loi et de mes commandements. Ils se sont fait un veau d'or. Ton peuple, Moïse est descendu de la montagne avec les tables de la loi. Déjà Moïse a intercédé, car Dieu disait, écoute, je vais les exterminer. Tous, tous, pas un ne vivra. Et je susciterai de toi un nouveau peuple. Moïse a dit, non Seigneur, que vont dire les nations, que vont dire les Égyptiens? Tu as fait de si grands miracles, de si grands signes, ils vont dire que tu les as emmenés dans le désert que pour les détruire. Ne fais pas cela à cause de ton grand nom. Alléluia. Merci Dieu pour les intercesseurs. Merci Dieu pour ceux qui se tiennent à la brèche. Merci Dieu pour ceux qui luttent, qui pleurent. Nous lisons que Dieu s'est lamenté, trouverai-je un homme qui se tienne à la brèche, un homme, un intercesseur, en trouverai-je, afin que la calamité soit éloignée, afin que le jugement soit retenu, trouverai-je un homme? L'homme qu'il cherche, c'est un homme qui est en communion avec lui. L'homme qu'il cherche et qui se tiendra à la brèche, c'est un homme dont le cœur droit est droit, dont la prière est exaucée, parce que le cœur est droit et les motivations sont justes. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais combien de ces prières parviennent jusqu'en présence du Dieu vivant? Combien? Ce Dieu-là est esprit. Moïse descendit de la montagne, et quand il vit ce que le peuple avait fait, dans sa colère, il prit cette première version des tables de la loi, de ses 10 commandements, et les brisa. À quoi sert tout cela, si même avant de les avoir et de les connaître, vous les brisez. Ils avaient promis de servir l'Éternel leur Dieu. Mais Israël veut un Dieu qui puisse toucher, un Dieu qu'il puisse voir. Et Moïse est fâché lorsqu'il vit ce qu'ils avaient fait, en se faisant une idole en or. Israël suivait tout simplement son propre instinct. Elle faisait comme tous les autres peuples. N'était-ce pas l'habitude? Et les autres nations n'ont-ils pas des multiplicités de dieux? Et l'Égypte de laquelle ils étaient sortis? Combien de dieux n'avait-il pas et n'adorait-il pas? Qui avait-il de mal en un Dieu visible, tangible, comme ceux des nations? Ils sont venus vers Aaron et ils ont dit, fais-nous un Dieu. Nous voulons un Dieu qui puisse nous conduire. Ce Dieu, nous voulons le voir. Nous voulons le toucher. Ils voulaient et ils ont associé l'Éternel avec ce Dieu en or. Ce Dieu en or qui représentait quoi? Un bœuf. Un bœuf. Et Aaron a eu l'aplomb, le culot, l'audace de dire au peuple, une fois qu'il était fait et qu'il avait mis sur un piédestal, « Voilà ton Dieu Israël qui t'a fait sortir d'Égypte. Ton Dieu l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Ton Dieu l'Éternel, c'est un bœuf. » Quelle insulte! Quelle insulte! Oui, c'est réconfortant. Réconfortant que de pouvoir dire, dans des moments de difficulté, dans des moments de souffrance, dans des moments d'incertitude, humainement parlant, de dire, voilà notre Dieu. En pointant le doigt vers quelque chose. Là, ce n'est pas de la foi. C'est de la superstition. Et combien de chrétiens aujourd'hui sont superstitieux, plus comme de foi. Ils croient dans des choses défendues. Ils croient dans des choses réprouvées. Ils croient dans des choses que Dieu a rejetées et qui sont des abominations. Chrétiens, oui, mais superstitieux. Vivant dans la superstition, croyant dans les légendes de la famille, dans les ce qu'on doit faire, ne pas faire au niveau de la famille, dans les tabous de tout genre, dans les tabous ne pas manger telle chose ou ne pas manger telle autre chose, de peur que, et ils viennent à l'église, et ils sont pleins de tabous, et pleins d'interdictions, entre guillemets, qui viennent des faux dieux, des pratiques fétichistes, des pratiques idolâtres. Il y en a ici. Ils veulent rajouter quelque chose pour leur salut par la superstition. Eh bien, mes amis, si vous êtes encore dans la superstition, vous n'avez pas la foi. On ne peut mélanger la foi et la superstition. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit les ténèbres, soit la lumière. Mais pas les deux. Oui, ce Dieu-là, fabriqué de ses propres mains, on peut le localiser, on peut l'identifier, on peut le définir. Un tel Dieu, fixe, peut être contrôlé, il peut être utilisé à notre guise, selon nos besoins. Est-ce mal? Est-ce mal? Ça, c'est la réalité des hommes jusqu'à aujourd'hui. Avoir un Dieu que l'on contrôle. Avoir un Dieu auquel on va, et quand on va à lui, tac, il fait des choses pour nous. C'est pas ça? C'est pourquoi il y a des gens qui sautent d'une église à l'autre. Oh là-bas, ils ont la puissance, je vais aller là-bas. Arriver là-bas, ah, au bout de quelques temps, ils sont pas contents. J'ai entendu, il y a un autre prophète là-bas. Et ils vont vers ce prophète-là. Et après ce prophète-là, ils vont vers un autre soi-disant prophète. En plus, après ça, ils reviennent à la borne. Et puis, après ça, ils entendent un autre ministère avec un grand M. Un ministère avec toutes sortes de qualifications. Idolâtre. Idolâtre. Quel scandale. Tu veux un Dieu? Tu veux qu'il te dise tout ce que tu veux quand tu veux? Tu tombes à ses pieds? Tu es quand tu l'entends te dire, oh, voilà ton grand-père, il y a ton ancêtre, il y a encore un lien, il y a encore ceci, il y a encore cela. Attention, l'affaire que dans laquelle tu es maintenant, tu ne dois pas la faire maintenant, fais-la dans 3 mois, tu réussiras. Attention, là, ils sont contents, ils ont leur Dieu qui les réagit tout de suite. Leur Dieu réagit tout de suite. Leur idole réagit tout de suite. C'est peut-être un homme qui se dit prophète, c'est peut-être un apôtre. Du reste, Verneau, lui, on ne sait pas trop ce qu'il est. Est-ce qu'il est apôtre? Est-ce qu'il est prophète? Est-ce qu'il est... En tout cas, c'est un Mendeley. Et puis les Mendeley sont sceptiques. Oh Dieu, 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 quoi que je sois, je veux annoncer ta parole. Cessez de chercher des dieux qui vont être manipulables, qui vont vous dire « Oui, fais ce voyage ». Lisez dans le prophète Jérémie. Jérémie était le seul prophète qui prêchait la vérité. Il était haï. Pourquoi? Parce que tous les autres disaient ce que le peuple voulait entendre. Voilà, des faux prophètes. Ce que le peuple voulait entendre. Ils étaient les manipulateurs. Ne soyons pas des manipulateurs de l'opinion publique. Publique, spirituelle, d'église. Nous ne sommes pas des manipulateurs de qui que ce soit. Nous prêchons la parole de la vérité. Nous ne sommes pas là pour vous dire, voilà, toutes sortes de belles choses, mais vous savez, donnez-nous votre argent. Vous voulez pas donner votre argent, gardez-le. Il va pourrir dans votre poche. Vous allez le dépenser, vous n'aurez rien dans les mains. Frères et sœurs, nous cherchons votre âme. Et si vous aimez le Seigneur, vous savez que vous avez une obligation dans l'œuvre de Dieu. Et vous le faites. Nous ne sommes pas là pour vous le dire encore mille fois et mille fois et mille fois. Nous sommes là pour vous dire, cessez d'adorer les idoles. Et on court ici, et on court là. Ça me fait pleurer. Et des fois, je me dis, mais tu prêches pour rien? Qui c'est qui entend? Mais tu te fatigues pour rien? Écoute, tu es vieux, hein? Fais tes bagages, trouve un bon coin, et repose-toi. C'est mon droit, non? Eh ouais. C'est peut-être mon droit. Mais mon obligation est d'obéir à celui qui m'a envoyé. J'ai décidé que je voulais obéir parce que je sais que c'est le meilleur chemin. C'est le meilleur chemin. C'est le chemin de la bénédiction. C'est ça que je veux. Je veux la bénédiction d'en haut. Frères et sœurs, arrêtez. Arrêtez de chercher des dieux que vous pouvez manipuler. Desquels vous désirez qu'ils vous disent ce que vous voulez. Oui, c'est ce qu'Israël a cherché. Un Dieu fixe, contrôlé, utilisé selon les besoins. Est-ce mal? C'est un Dieu pratique que celui-là. On l'a dans la poche ou on l'a autour du cou. Quelle insulte! Ce métal que je tire du sol, les mineurs sont allés le chercher. Un artiste fabrique un moule et fait une image. On le met sous presse et il sort une médaille avec une image. Tout ça fait par l'homme. Je le porte autour du cou. Et je dis, c'est lui qui va me garder dans mes voyages. Insulte! C'est une insulte au Dieu vivant. On l'a dans sa poche, ce Dieu-là. On l'a autour du cou, ce Dieu-là. On le pend dans sa voiture, ce Dieu-là. On pend toutes sortes de choses dans les voitures, et des choses dites saintes, avec l'arrière-pensée que ça va me protéger d'un accident. Sottise! Sottise! Israël, à ce moment-là, ils étaient 1 million de personnes. 500 000 et quelques hommes, plus les femmes, les enfants, à peu près 1 million, peut-être plus. Ils étaient dans le désert, pensez donc. Ils ont besoin de quelqu'un pour les conduire. Ça se comprend. Mais ils sont le peuple de Dieu et il y a l'épreuve de la marche par la foi. Dieu les a mis à l'école. Ils ont besoin de quelqu'un pour les diriger, de quelqu'un sur lequel ils puissent s'appuyer, de quelqu'un qu'on puisse voir. Ils ne peuvent retourner en Égypte. Impossible. Le pays de la promesse leur est inconnu. Il nous faut un Dieu, disent-ils. Ils sont dans l'incertitude. Aaron, fais-nous un Dieu. Ce Moïse, disent-ils, ce Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Tant de jours, il est sur la montagne. C'est un grand homme, il a fait des miracles. C'est vrai, il a ouvert la mer Rouge avec la baguette, quand Dieu lui a dit, avec son bateau. C'est vrai, on a vu tout ça, pas de problème, pas de problème. Mais où est-ce qu'il est maintenant? Il a disparu. Il nous faut un Dieu. Mais Aaron leur répond, vous avez un Dieu. Il vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et du reste, regardez, il se manifeste. Regardez la colonne de nuée sur la tente d'assignation pendant le jour. Regardez la colonne de feu. La colonne de feu pendant la nuit qui éclaire. C'est sa présence. C'est sa présence. Oui, oh merci Seigneur. Dans la colonne de nuée, c'était une nuée, c'était pas la forme de quelque chose. Nous savons pas à quoi il ressemble ce Dieu. Il n'a même pas de nom, ce Dieu. Il n'a même pas de nom. Moïse l'appelle Je suis. Moïse l'appelle Je suis, mais est-ce un nom ça? Moïse ne l'a jamais décrit. Du reste, il nous l'a dit, il ne l'a vu que de dos. À quoi ressemble notre Dieu? Il doit avoir un nom, pas vrai? Il doit avoir une forme, il doit avoir un visage. Nous devrions pouvoir lui offrir des offrandes, des sacrifices. Nous devrions pouvoir le montrer aux autres. Nous devrions pouvoir le décrire à nos enfants. Nous devrions pouvoir l'amener avec nous dans nos batailles. Nous devrions pouvoir avoir un Dieu visible. Ça, c'est le raisonnement humain. Nous représenter un Dieu visible. Il y a des gens qui ont eu la grâce, certaines fois, et ceci rarement, d'avoir une vision de Jésus-Christ. Ils savent que c'est Jésus, mais ils n'arrivent pas à le décrire. Leur esprit connaissent, leur esprit savent, c'est Jésus, mais ils ne peuvent le décrire. Ceci s'est vu tellement de fois. Ils peuvent dire seulement, je sais que son visage était merveilleux, que son apparence était lumière. Une grâce particulière qui leur a été donnée de voir Jésus. Ce n'est pas Dieu qu'ils ont vu. Ils ont vu Jésus glorifié. Jésus glorifié, car c'est un homme qui nous attend dans la gloire. Mais il ne peut être représenté. C'est une insulte. Aaron prit leur or. Il a cédé, Aaron. Il fait un bœuf, symbole universel de force et de fécondité dans le monde d'alors. Il fit ce que les gens voulaient pour leur plaire. Il y a des gens qui disent, voix du peuple, ce n'est pas là forcément la voix de Dieu, non. Oh non! Un seul homme peut avoir la voix de Dieu et tout le monde peut chanter différemment et être trompé. Non, la voix du peuple n'est pas forcément la voix de Dieu. Si tout le peuple suit Satan, quelle sera la voix qu'il va prononcer? Ça sera le message de Satan et de la perdition. C'est pour cela, attention mes frères. Un homme avec Dieu, c'est une majorité. Oh, je sais que c'est des choses que je répète souvent. Eh bien, ça fait rien, je le dirai encore. Parce que je le crois. Oui, il a cédé à la voix du peuple. Et il a fait un symbole universel, connu par tous. Il fit ce que les gens voulaient pour leur plaire, au lieu de faire ce qui plaît à Dieu. Il y a avantage lorsqu'on fait son Dieu selon son propre image, sa propre image. Il peut être localisé, défini, vu, contrôlé. Pourquoi Dieu est-il si fâché lorsqu'il a vu qu'il le représentait par un bœuf? N'aurait-il pas dû comprendre le besoin d'Israël dans sa situation précaire et incertaine? Bien sûr que Dieu comprenait, mais Dieu ne veut pas un peuple matérialiste, il veut un peuple spirituel. Dieu ne veut pas un peuple qui s'appuie sur les veaux d'or, mais il veut un peuple qui s'appuie sur lui, le Dieu qui est esprit et vie. Aujourd'hui, nous formons et nous fabriquons des veaux d'or. Dans combien d'églises? On fabrique des veaux d'or. Et les gens aident à fabriquer cela parce qu'ils veulent que ce veau d'or leur donne quelque chose. Leur procure quelque chose. Prospérité, 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 prospérité. Alors que spirituellement, ils sont malheureux, faibles et pauvres. Celui qui est riche spirituellement sera riche matériellement. Et quand je parle de richesse matérielle, je ne parle pas de gros comptes en banque, ce que tout le monde ne peut pas avoir. Je ne parle pas de toutes sortes de biens matériaux que tout le monde ne peut pas avoir, mais je veux parler de ce qui est nécessaire à la vie de tous les jours. Car la vraie richesse, ce n'est pas la possession de beaucoup de biens. La vraie richesse, c'est d'être un homme spirituel qui marche avec son Dieu et qui a la vie éternelle. Comment alors représenter Dieu? Voilà une question. Tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou sous la terre, et tu ne te prosterneras point devant elle. Ok. Mais alors, comment représenter Dieu? Moïse, au buisson ardent, souvenez-vous, n'a vu qu'un buisson qui brûlait sans se consumer. Là, il était en contact avec l'incomparable. Voilà. Il était dans le désert. Et dans ces déserts arides et chauds, il arrivait de temps à autre qu'à cause du soleil et à cause de la réflexion du soleil sur les rochers, sa face comme loupe. Et que, vous savez qu'avec une loupe et avec le soleil, on peut faire brûler un morceau de papier, n'est-ce pas? On peut utiliser le soleil pour avoir du feu. Et dans ces déserts, à certains moments, à cause des dispositions peut-être de quelques roches de quartz ou de quelques matières de ce genre, les réflexions du soleil allaient sur un buisson bien sec et qu'il prenait spontanément feu. Ceci arrivait, rien d'étrange. Moïse l'avait déjà vu, rien d'étrange. Mais là-bas, je vois un buisson qui ne cesse de brûler et il est toujours buisson. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ce grand phénomène? Est-ce que Moïse a vu une forme? Est-ce que Moïse a vu un bœuf? Est-ce que Moïse a vu un veau? Est-ce que Moïse a vu un poisson? Est-ce que Moïse a vu un lézard? Est-ce que Moïse a vu un homme? Non! Il n'a rien vu de tout cela. Qu'est-ce qu'il a vu alors? Un buisson qui brûle, mais qui ne brûle pas. Alléluia! Qui peut faire brûler quelque chose et que cette chose ne brûle pas? Dis-moi! C'est simple, hein? C'est très simple. Et pourtant, aucun homme ne peut le faire. Dieu est dans le buisson. Dieu n'a pas choisi une cathédrale. Dieu n'a pas choisi un lieu dit saint par les hommes. Dieu n'a pas choisi une grotte quelque part. Dieu n'a pas choisi la place où ces gens mettaient leurs icônes, leurs statues, leurs chose qu'ils appellent sainte, dans un petit truc comme ça. Non! Dieu n'a pas choisi ça. Dieu a choisi un buisson. Un buisson peut brûler. Un homme, qu'y a-t-il de plus commun qu'un buisson dans un désert? Il y a des buissons partout, partout, partout. C'est pas vrai? Dieu a choisi une chose commune. Il a voulu brûler dans cette chose. L'homme est très commun, mais Dieu veut brûler dans l'homme. Et cet homme ne sera pas consumé. Il ne sera pas consumé. Il ne sera pas consumé. Alléluia! 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 C'est la puissance, c'est le feu de l'Esprit qui brûlera en lui. Il brûlera et les gens seront attirés. Quelle est cette chose extraordinaire? Il brûlera! Il brûlera non pas parce qu'il crie fort. Il brûlera non pas parce qu'il fait « Oh, je vais vous dire ce qui va se passer. » Il brûlera non pas parce qu'il porte un habit spécial. Il brûlera non pas parce que il est étrange d'une façon ou d'une autre, mais il brûlera parce qu'il s'est donné à Dieu 100% et parce qu'il est rempli du Saint-Esprit et parce qu'il a qu'un zèle, qu'un désir. Allez en Égypte pour libérer les esclaves. Voilà pourquoi il brûlera. Il y a tant d'esclaves autour de nous qui doivent être libérés, frères et sœurs. Il faut le buisson ardent. Il faut le buisson ardent. Quand Moïse est arrivé là, il a dit, c'est étrange. Ça brûle, mais ça ne se consume pas. Et alors qu'il s'est approché, il n'a pas vu de forme. Il n'a pas vu de choses spéciales. Mais, il a entendu une voix. Oh Jésus, ta voix me suffit. Ta voix me suffit. Puisses-tu me parler? Oh Dieu, puisses-tu nous parler? Non pas dans l'imagination des choses bizarres, des choses stupides, des choses qui n'ont pas de sens. Comme il y a des gens qui disent Dieu m'a parlé, mais je vous assure que quand on les écoute, on pense que Dieu a vraiment perdu l'intelligence. Est-ce que vous croyez que quand Dieu parle, ce sont des bêtises? Est-ce que vous croyez que quand Dieu parle, demain il change d'idée et c'est différent? Attention, attention, si Dieu te parle, garde ses paroles pour toi. Ne va pas les publier. Il a parlé à toi et toi, tu dois agir selon qu'il t'a dit. Et si tu cours partout tout pour dire « Dieu m'a parlé », eh bien, je suis même pas prêt à t'entendre. Je suis fatigué de ces histoires-là. Ne soyons pas des manipulateurs des autres parce que Dieu a soi-disant, nous a soi-disant parlé. Agissons! Quand Dieu a parlé à Moïse, qui avait-il avec lui? Personne. C'était une rencontre de Moïse avec Dieu, de Dieu avec Moïse. Et le message était donné à Moïse, non pas pour le publier, mais pour agir selon le message. Oh, que Dieu nous donne de comprendre! Il a vu le buisson brûler, et le buisson ne se consumait pas. Il n'a pas vu de forme. Et là, il était en contact avec l'incomparable, celui qui ne peut être représenté ou décrit. Il réalise qu'aucun objet matériel dans toute la création ne peut décrire ou représenter Dieu, ou même quelque peu lui ressembler. Impossible. Le ciel, la terre, les eaux, sous la terre, dans les eaux, rien dans l'univers ne peut le représenter. Le représenter, c'est le diminuer. Le représenter, c'est l'insulter. Non, non, mes frères, je ne veux pas que vous me fassiez une belle peinture de Jésus pour mettre dans l'église. Il y en a qui le font, même de vrais chrétiens, et qui font la représentation de Jésus, qui est fantaisiste. absolument fantaisiste, on ne sait pas comment il était, et qui le mettent et qui disent, c'est Jésus, c'est votre affaire. Mais pour moi, c'est trop sacré. C'est trop sacré. Je ne peux pas le représenter. Je ne peux pas. Je ne peux pas l'avoir dans ma maison sous quelque forme que ce soit. Car il est incomparable. Je ne veux pas le diminuer. Je ne veux pas l'abaisser à mon niveau. C'est moi qui dois m'élever à son niveau. Je ne veux pas l'insulter, mais je veux marcher à sa lumière. Ce commandement, tu ne te prosterneras devant aucune image taillée, ni aucune représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel ou en bas sur la terre, et tu ne te prosterneras pas devant elles. C'est ça qui fait la raison du commandement. Parce que quand nous faisons une image quelconque, des choses sacrées, nous les regardons comme sacrées et nous nous prosternons devant elles. On peut très bien, comme ça s'est vu dans le passé, des gens jusqu'à aujourd'hui, pour illustrer les petits cahiers d'école du dimanche, pour illustrer certaines images de la vie de Jésus sur la terre, qui font des dessins, on voit Jésus dans la barque, et tout cela, on peut très bien faire cela. Et les gens, les enfants surtout, vont pouvoir se représenter ce qui s'est passé lorsqu'il était sur la terre. Bien sûr, tout ce qui est dessiné là n'est que l'imagination, parce que la barque n'est pas exactement comme elles étaient, la voile n'est pas exactement comme ils étaient, les disciples Pierre et Jacques et Jean ne sont pas exactement comme on les représente, et Jésus n'est pas exactement tel qu'on le représente. Mais disons que c'est un essai pour que l'enfant puisse comprendre l'histoire. Là, il n'y a pas de sacrilège. Mais dès l'instant où tu te prosternes devant elle, il y a sacrilège. Devant une image, aussi belle soit-elle, mise dans un lieu qui s'appelle saint, qu'on dit être saint, là, tu violes ce commandement. Là, tu violes ce commandement. J'ai vu des fois des gens me donner des images qui, dans le fond, étaient très belles, des anciens artistes d'autrefois, mais ils me les ont données comme si c'était des fétiches. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils les ont vénérées, ces images. Voilà pourquoi. Ce n'est pas à cause du dessin lui-même, mais c'est à cause de la vénération qu'ils ont eue pour ces choses-là. Vous m'entendez? Oh, frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu jaloux. Est un Dieu jaloux. Baissons la tête. Nous continuerons sur ce même sujet dimanche prochain. Seigneur, nous sommes devant toi. Et déjà maintenant, tu nous as parlé. Et tu nous as fait connaître et comprendre que tu es l'incomparable, l'inimitable. Tu es Seigneur, celui qui est au-dessus de tout. Celui qu'on ne peut diminuer et ramener à notre niveau. Qu'on ne peut ramener à notre pensée. Qu'on ne peut décrire. Oh Dieu, s'il te plaît, viens à notre secours. Donne-nous de ne pas être des idolâtres sous quelque forme que ce soit. Je sais que tu as parlé à nos cœurs. Peut-être que parmi nous, il y a des hommes ou des femmes, des jeunes gens ou des jeunes filles qui vénèrent quelque image, qui vénèrent quelque statue, qui vénèrent quelque chose, quelque objet fabriqué par les hommes, qui pensent qu'il peut les protéger, qui peut les garder, qui peut être pour eux quelque chose qui va les aider. Frères et sœurs, c'est de l'idolâtrie. Si vous avez de telles choses, abandonnez-les. Si dans votre cœur il y a ces idoles, abandonnez-les. Je vous en conjure au nom de Jésus. Qui a quelque chose à abandonner dans ce domaine-là, ici dans cette place, qu'il se lève alors et nous prierons pour lui. Quelque chose à abandonner, quelque chose qu'il vénère, quelque chose qu'il considère comme étant cette chose qui va le protéger. Peut-être c'est un pas dur que je vous demande, mais c'est devant Dieu que nous le faisons et non pas devant les hommes. Si vous avez quelque chose que vous vénérez de la sorte, de vos parents, de votre famille, de votre tradition, quelque chose que vous vénérez particulièrement, comme une idolâtrie, levez-vous maintenant, je vous demande au nom de Jésus. Et je demande à tout le monde de rester dans la salle jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Je vois trop de personnes qui s'en vont, vous restez jusqu'à la fin, à la prière finale, s'il vous plaît. Nous sommes là devant Dieu. Vous vénérez quelque chose que vous ne devriez pas, levez-vous. Seigneur Jésus, tu vois que chacun se trouve devant sa conscience à cette heure. Ceux qui sont dans la salle comme ceux qui sont à l'écoute sur les médias, devant sa propre conscience. Père Céleste, je te demande de les travailler. Je te demande, Seigneur, de leur donner le courage d'abandonner ces idoles. Peut-être qu'ils n'ont pas d'objet idole, mais ils ont des hommes idoles. Ils ont des pseudo-prophètes idoles. Ils se laissent abuser par des paroles qui ne sont pas de toi. Seigneur, mon Dieu, je te prie de travailler dans le cœur de chacun à cette heure. Ô Seigneur, de travailler par ton Saint-Esprit et que chacun prenne une décision de savoir qui est son Dieu afin de le servir. Merci, Seigneur. Car ta parole est la vérité. Je te prie à cette heure, Seigneur, de bénir les offrandes et les dîmes. Bénis-les, Seigneur. Permets que notre argent et nos biens ne soient pas des idoles. Donne-nous d'en utiliser avec discernement, mais que ce ne soient pas des idoles, Seigneur, mais que nous puissions te servir, même avec ces choses périssables. Merci, Seigneur.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.